Bonjour les merveilles! Bienvenue dans le numéro 20 du podcast Un instant, une vie. Je suis Joëlle Le Cravert et aujourd'hui je reçois Lourdes Ayalus Landman. Lourdes est arrivée du Pérou quand elle avait 10 ans. Depuis, elle cherche à conjuguer la liberté dans chacune de ses créations. La mode, l'art, l'accompagnement sont autant de chemins de transformation pour retrouver la joie du lien et du cœur. Vous pouvez la trouver sur sa page Facebook, Lourdes l'artiste, et sur son blog, Lourdes Landman Malpica. Si vous aussi pensez que ce cœur qui bat dans chacune de nos poitrines est une source magique qui nous unit, alors cet épisode va vous plaire. Pour être tenu au courant de tous mes accompagnements, infos et sorties de podcast, inscrivez-vous sur mon site beautifultoi.fr. Et je vous laisse découvrir Lourdes Landman. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Lourdes Landman, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast.
Moi aussi également, je suis ravie. Je ne connais pas, je vais découvrir.
Écoute, je te propose de te présenter. Qui es-tu aujourd'hui, Lourdes?
Ah, super, c'est intéressant que tu dises aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une femme libre, libre de choisir. Et je suis une femme qui est née au Pérou. J'habite en France depuis l'âge de 10 ans. J'en ai 52 aujourd'hui. Et je suis maman, je suis épouse. Et puis, je suis également artiste et art-thérapeute. Et bientôt, accompagnatrice de l'humain. Voilà.
Accompagnatrice de l'humain.
Oui.
Dans ce que tu as décrit de tes jobs, on va dire, divers, j'entends beaucoup de toute façon l'accompagnatrice de l'humain, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'art-thérapeute, à tous les niveaux en fait.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me suis rendu compte il y a 3 jours, en participant à un cercle de pardon animé par une très chère amie, qui s'appelle Janine, que l'humain est important à mettre vraiment au centre de toute ma vie. Donc après, je vais accompagner les autres en traversant ça, en prenant conscience de ça. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas des robots et que même si j'ai des pressions extérieures, quelles qu'elles soient, familiales, sociétales, de travail, le cœur, c'est vraiment ce qu'on a tous en commun, les êtres humains. Un cœur qui bat. Et nous avons fait une séance où chacun écoutait le cœur de l'autre. Et c'était tout simplement magique. Et franchement, je pense que ça m'a réveillée. J'ai toujours eu un temps d'avance, peut-être parce que j'étais styliste de mode, peut-être parce que j'étais différente, parce que comme je suis arrivée en France, déjà j'étais d'ailleurs et je vivais ici. Donc j'ai toujours vécu ce sentiment d'être différente, qui était compliqué pour moi pendant plein d'années, parce que il fallait faire semblant d'être comme les autres pour pouvoir intégrer le groupe. Et après, quand j'ai rencontré une art-thérapeute qui m'a guidée sur le chemin de la transformation de mon activité, je me suis dit qu'en fait, c'était pas quelque chose qui était mauvais, mais que c'était plutôt un atout. Et du coup, j'ai accepté d'être différente. J'accepte aujourd'hui d'être différente et aussi peut-être d'être en avance par rapport au système de pensée. Alors, je pense que j'avais ça dans la mode, parce que dans la mode, on anticipe les tendances. Il y a tout un travail de sociologie. On sort pour voir qu'est-ce qui se fait, quels sont les besoins du monde. Et du coup, on propose du prêt-à-porter, des couleurs qu'on anticipe, qu'on pense que les consommateurs vont aimer. Et après, j'ai décidé d'être art-thérapeute. Au début, il y a une douzaine d'années, on me disait qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'art-thérapeutes. Et je sens qu'en fait, ma place, elle est plus là. J'ai envie de partir ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que je dis accompagnatrice d'humain, parce que j'ai envie vraiment de partir du milieu de la thérapie pour aller vers un accompagnement, en fait. Je trouve que, la thérapie, ça peut mettre les personnes... C'est très bien, hein, je dis pas qu'il faut arrêter, mais en tout cas, pour moi, c'est mettre des personnes avec une étiquette de malade. Et donc, malade, ça peut être des dépendances, en fait... Je suis dépendante de mon thérapeute finalement et en fait, je crois que c'est plus pour moi ça, cette histoire de dépendance. J'ai vraiment envie d'accompagner les personnes vers leur humanité et leur liberté. Mmh. En fait, je dis toujours que au début j'étais dans le paraître, dans la mode, donc l'image, fallait paraître. Je suis passée dans le bien-être, thérapie, et je vais basculer vers juste l'être.
Juste pour faire un petit rappel de ton parcours, donc toi tu es arrivée du Pérou quand tu avais 10 ans. Après, tu es allée à l'école comme beaucoup, beaucoup d'enfants. Voilà.
D'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
Oui.
Après, tu as fait ton parcours dans la mode.
Pendant 15 ans, oui.
Pendant 15 ans. Ensuite, tu as fait un parcours en tant qu'art thérapeute.
Exact.
Ouais. Et maintenant, tu te diriges vers d'autres horizons pour utiliser finalement ces différentes compétences que tu as acquises. Et justement, quels sont les défis et les cadeaux que tu as pu rencontrer sur ton parcours qui t'ont aidé à être justement qui tu es aujourd'hui ? Cette personne qui veut accompagner dans l'être.
Oui. Alors, les défis, le défi, comme je disais tout à l'heure, c'est je suis différente, je suis d'ailleurs, mais je veux être ici. Je raconte toujours qu'il y a un jeu que je détestais quand j'étais enfant, c'est les chaises musicales. Les chaises musicales, j'ai horreur de ce jeu-là parce qu'on tourne autour de chaises et puis après, la musique s'arrête et il faut s'asseoir. Et ma hantise, c'était de ne pas trouver de chaise, en fait. Donc, ça, c'est un truc horrible pour moi. Donc, je pense que c'est une de mes blessures. Du coup, je suis très touchée par l'exclusion. Donc, je pense que c'est une de mes blessures. Et l'idée, c'était de transformer cette blessure qui devienne un atout. Mmh. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé. Le défi, ça a toujours été de m'adapter, de rentrer dans le groupe, de tel un caméléon. Voilà, je suis là, je suis comme vous. Donc, c'est intéressant parce que ça m'a coûté quand même faire une croix sur ma culture, sur ma différence, que après, j'ai mis longtemps, longtemps à retrouver. Ça, c'était intéressant. Et puis après, dans mon activité, donc ce qui m'a coûté quand j'étais jeune comme défi, de pas dire ce que je pensais parce qu'il fallait surtout pas être différent, notamment dans le domaine de la mode et tout ça. C'était même dans le domaine de la mode. Dans les années 80, c'était vraiment côté uniforme. Tout le monde était en noir. C'était comme ça. Après, petit à petit, j'ai acquis de la confiance avec l'âge. Et puis, j'ai eu mes enfants. Ça m'a apporté beaucoup de force aussi. J'ai eu des enfants différents aussi. J'ai deux enfants qui ont une maladie génétique, une phénylcétonurie. Voilà, en fait, en gros, s'ils mangent comme nous, ils deviennent débiles, quoi, en gros.
Ah oui.
Et du coup, il faut faire attention, il faut leur faire faire un régime jusqu'à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, ils ont 22 et 20 ans, et ils sont super, et ça va très bien. Et grâce à eux, je suis végétarienne, et je fais super attention à ce que je mange, parce que c'est des régimes végétaliens.
Ah oui.
Donc, à chaque fois, la différence m'a apporté des leviers pour accepter cette différence et en faire une force. Donc ça, c'est chouette. Ça, en tout cas, je pense que c'est le point commun que j'ai dans tout, en fait. Ok, je suis différente, et alors ? Qu'est-ce que j'en fais, voilà. Et du coup, quand je suis devenue art thérapeute, ce qui me touche beaucoup dans mon travail d'art thérapeute, c'est depuis le début, c'est de travailler avec des gens qui sont exclus. Forcément. Et du coup, forcément. Et ça marche très bien, en fait. À chaque fois, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes qui sont exclues, ça a marché super bien parce que je pense que, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc, j'ai commencé mon travail dans les milieux pénitentiaires à l'île de la Réunion pour les mineurs qui sont détenus, les gens qui sont par leur acte sortis du système pour être enfermés ailleurs parce que ils ne peuvent plus rester dedans, en fait. Donc, j'ai travaillé dans ces endroits d'enfermement pour les mineurs, pour les hommes et les femmes, et j'ai rencontré beaucoup d'humanité, beaucoup d'hommes merveilleux. Alors attention, moi j'étais pas là pour les juger parce qu'ils avaient déjà été jugés par la société. Moi j'étais là juste que pour leur donner de l'espoir et donner quelques clés pour se transformer. Et des belles réponses que j'ai eues, c'était je me suis sentie libre dans votre atelier. La notion de liberté, c'est une notion hyper importante à mon cœur. Et donc voilà, j'ai travaillé je pense 9 ans dans les milieux pénitentiaires. Ouais, 8 ans. Et après, j'ai travaillé dans les foyers où on place les enfants, les foyers d'ASE, en fait, où on place les enfants aussi parce que ils sont en danger ou parce qu'ils sont différents ou qu'eux mettent en danger leur famille. Donc voilà, toutes les personnes qu'on sort d'un groupe pour mettre ailleurs parce que ça va pas. Du coup, là, j'arrive. Et donc voilà, ça a été la première partie de mon travail en tant qu'art thérapeute. Ensuite, j'ai travaillé avec des enfants précoces aussi, des enfants différents, en tant qu'art thérapeute, avec des enfants en échec scolaire. Voilà. Et puis là, depuis 6 ans, je suis dans une clinique psy où les personnes étant différentes parce que certaines très humaines et qui ne supportent pas le système, ont des burn-out, des dépressions, voilà, des troubles du comportement alimentaire. Bref, le corps et le mental réagit. Du coup, ben là, j'ai la chance de pouvoir être art thérapeute, les accompagner vers leur expression, voire réadapter aussi, rééquilibrer. Parce qu'à chaque fois, mon travail est de dire, vous êtes quelqu'un d'unique et vous êtes beau tel que vous êtes. Maintenant, je vous accompagne déjà vers l'acceptation de ça, à travers les outils de collage, de peinture, de modelage. J'apprends à me connaître, je vous accompagne à apprendre à vous connecter à vous, à vous accepter tel que vous êtes, à vous connaître. Et ensuite, avec ce que vous avez comme unique et essentiel, comment faire pour que vous trouviez votre place dans le groupe? Donc, c'est pas je me renie et je fais semblant d'être comme les autres, mais je suis unique. Ok, j'ai une maladie, ben, je l'accepte. Qu'est-ce que je fais avec cette maladie dans le groupe? J'ai fait ce type d'action. Ok, comment je fais pour me réinsérer dans la société? C'est pas je nie une partie de moi, en fait, c'est je l'accepte. Alors, bien sûr, c'est des jeux, c'est des jeux ludiques, c'est des activités plutôt joyeuses. Mais quelque part, derrière, c'est sérieux parce que, ben, j'apprends à me reconnecter à moi, quoi. Enfin, moi, j'adore ça, en fait.
Dans ce que j'entends, tu accompagnes les gens pour qu'ils apprennent à se réapproprier la totalité de qui ils sont, la totalité des actes, sans jugement. Du coup, ça leur donne la possibilité d'aller vers la transformation des défis qu'ils ont pu rencontrer pour en faire quelque chose, comme ce que toi, tu as fait.
Tout à fait. Aussi. Ah ouais. En fait, j'essaye d'être le plus alignée possible et de ne pas dire ce que je n'ai pas fait. Voilà, ou enfin, en tout cas, voilà. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est là où ça peut être juste, c'est que du coup, quand j'ai expérimenté la chose, ben l'événement, l'expérience, du coup, ben je me rends compte que j'ai moins besoin de dire les choses ou de me justifier juste par ma présence que ben ça, les choses fonctionnent. Et c'est là où en fait l'être est super important, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de raconter notre vie pendant 3 heures, c'est juste en étant là, la personne va ressentir la force, l'ancrage et elle va être rassurée en fait. Avant, je me rappelle quand j'étais styliste de mode, justement, quand j'allais pour chercher un travail, j'emmenais mes books, 3 boîtes, je fais ça comme type de truc, je fais ça, je fais ci. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, donc on se baladait avec des books en papier. Et donc, il fallait que je justifie que j'étais créative, que je justifie que je savais faire plein de choses, que je savais m'adapter et tout. Aujourd'hui, ben, quand je rencontre les gens, je dis « je suis ça », et ben, c'est OK, quoi. Je leur dis « bon, maintenant, vous allez voir sur mon Instagram, je suis artiste, je transforme ce que je trouve dans la rue. » Alors, parce que dans mon travail artistique, je récupère tout dans les poubelles, tout ce qui doit être jeté pour le transformer afin de redonner de la valeur. Donc, c'est dans la même lignée que ma mission de vie, en fait. Hein. C'est du style, bah voilà, c'était à la poubelle, c'est parti. Et moi, je reprends et je retransforme. Des fois, je garde des choses. Des fois, je recouvre complètement. C'est ce que j'appelle le recyclart. Et je trouve ça intéressant parce que ça vient du courant d'Arte Povera. Et quelque part, ben voilà, après c'est exposé et vendu, ça apporte de l'espoir. Enfin, en tout cas, moi, j'adore le faire. Quoi. Du coup, voilà, je pense que plus ça va, moins j'ai besoin d'en faire et moins j'ai besoin de dire. Et ça, ça me va bien, en fait. Ça allège beaucoup ma vie.
Donc, ouais. C'est chouette. Dans ce que tu disais dans un partage précédent, tu disais que tu es passé d'un espace où tu passes de l'un à l'autre, tu sautais de chose à chose, à un espace où il y a 1001 et 1000 autres.
Oui, 1001, 1000 autres. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est parce que dans mon histoire, je te racontais ouais, que je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et que du coup, il y a eu tout un moment où c'était compliqué parce que quand j'étais au Pérou, on me disait, bah toi, tu n'es pas péruvienne, tu es française parce que tu habites en France. Et quand j'arrivais en France, on me disait, non, mais toi, t'es pas française, t'es péruvienne. Du coup, j'étais toujours en train de me dire, mais j'ai pas de pays. Et j'enviais les gens qui disaient, ben, moi, mon pays, c'est la France, c'est mes racines, je suis née dans tel endroit et tout. Et moi, quand je vais là-bas, je me sens de là-bas, mais pas complètement. Et du coup, j'étais en train de me dire, ben, je suis vraiment les fesses entre deux chaises. J'arrive pas à être complètement quelque part. En fait, c'est compliqué. Et puis, quand j'ai fréquenté un atelier d'art-thérapie de Marie-Pierre Fournier, dans la région lyonnaise, Elle me dit, mais en fait, déjà, ce qui m'a profondément touchée, c'est que j'ai commencé à modeler de l'argile pour moi, hein, en mode découverte. Et là, ce qui est sorti, c'était des sculptures Inca, comme ce qu'on voit dans les musées. Oh! Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable, je savais pas que je pouvais faire ça. Bon, évidemment, il y a eu des émotions très, très fortes et tout. Et j'ai vu que c'était important que mon appartenance à une culture sorte de terre, se déterre quelque part. Et c'est une des prises de conscience que j'ai eues en travaillant tout ça avec la terre, bah, que c'était important pour moi de changer de voie et devenir art-thérapeute, en tout cas. Donc aujourd'hui, j'utilise beaucoup la terre parce que c'est vraiment un médium qui est super intéressant. Et j'ai appris donc en fait que je suis passée de ni l'un ni l'autre à mille un, mille autres. C'est-à-dire que c'est OK, je suis quelqu'un de duel et que toutes ces infimes parties me composent. Donc j'ai un peu rapiécé le tout. J'ai fait un patchwork de toutes mes différences et mes ambiguïtés.
Moi, j'entendais aussi dans cette phrase, cet espace où tu parlais de toi, mais j'ai aussi entendu, j'ai eu le sentiment que tu parlais aussi des autres, c'est-à-dire dans l'incarnation et la façon dont la personne que tu accompagnes se vit, où il est ni comme il faut, ni comme il faut pas. Enfin, tu vois, cet espace de déchirement intérieur parce que il y a un acte où il y a une mise à l'écart social, donc je ne fais pas partie de la société, mais en même temps, je me reconnais pas forcément dans les méchants, en fait, parce qu'il y a cette étiquette.
Oui, oui.
Et que dans ton accompagnement et ta présence, tu les amènes à être les mille un qu'ils sont en lien avec les mille autres qui sont autour. Voilà, j'ai entendu ça moi dans
ah, cette c'est phrase. Beau ça, ouais, c'est une nouvelle vision, c'est chouette, mille un, mille autres.
Oui.
C'est-à-dire l'espace des possibles, quoi, tout simplement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je suis pas cataloguée dans deux extrêmes, mais au milieu, il y a plein de possibilités d'être, ouais, dans laquelle je vais avoir le temps de choisir complètement ce qui est juste pour moi dans ce temps donné, quoi. C'est vrai.
C'est
vrai. Tout c'est à fait.
Ça.
Tout à fait. Et puis, moi, je dis toujours aussi, donc, plus on est authentique, plus je suis authentique, plus je suis à ma place, et moins je prends la place de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, l'idée, en parlant de chaise, c'est que si je prends une place qui n'est pas la mienne, mais je la prends quand même parce qu'au cas où, sinon j'ai pas de place, mais elle me va pas cette place, hein. Je suis pas bien, voilà, c'est horrible, mais je la prends quand même parce que c'est mieux que rien. Mais du coup, le mieux que rien est pire que tout. Et du coup, ben, je me retrouve dans une chaise qui n'est pas la mienne, mais ça, c'est pas terrible, déjà pour son corps, pour son cœur, pour tout. Mais en plus de ça, je prends la place qui, ça se trouve, est une place idéale pour quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ce quelqu'un d'autre est dans une autre place qui n'est pas du tout bonne pour lui, etc. Donc, si j'arrive à accompagner les personnes vers une authenticité sans jugement, accompagner avec amour je suis comme ça et j'ai besoin de ça et c'est OK, bah, du coup, la personne, elle va pouvoir prendre sa place complètement en conscience, libérer les autres places et tout le monde s'ajuste, quoi. C'est un ajustement global, quoi, mondial, finalement, hein. Donc ça c'est magique, ça me donne plein d'espoir de voilà, si chacun était à sa place, qu'est-ce qu'on serait bien.
Tu as dit tout à l'heure que tu as été impactée ce week-end par le fait d'entendre le cœur des sœurs avec lesquelles t'as partagé ce cercle de pardon. C'était un cercle de femmes ou c'était
Il y avait des hommes aussi. Il y avait deux hommes.
Okay. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc ce cercle de pardon, tu as dit une phrase qui m'a touchée. Tu as dit, c'est le cœur qui bat qui nous relie. Voilà.
Le cœur qui bat, c'est l'élément que nous avons tous en commun, en fait. Tant que nous sommes en vie, c'est nos battements du cœur qui rythment notre vie et qui rythment le monde. Et si je suis stressée, ben, mon cœur, il va battre d'une certaine manière. Si je suis calme, ben, ça va être plus serein. Mais en tout cas, ce qui était chouette dans ce cercle, c'est que au début, on se connaissait pas. On avait le cœur fermé. Et au moment où on a commencé à écouter les cœurs des uns des autres, ben en fait, c'était comme si on s'était toujours vu, quoi. On s'était toujours fréquenté. Et du coup, le cœur s'est ouvert. Mon cœur s'est ouvert, hein. Je parle de mon expérience, mais mon cœur s'est ouvert. Mais je voyais bien qu'en face, tout le monde. Et à la fin, ben, on était tous frères et sœurs, quoi. Et cette communion cardiaque, elle est exceptionnelle, quoi. Elle est exceptionnelle. Et je pense que aujourd'hui, on est dans un monde où comme je disais, hein, en fait, voilà, c'est y a une volonté consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, de nous robotiser. Et je pense que une des résistances, c'est de remettre l'importance sur l'humain. Et l'humain, le cœur, l'humain, c'est la vulnérabilité, c'est les blessures, c'est l'imperfection et l'amour, quoi. Donc, c'est pour ça que je disais, voilà, paraître, bien-être, être, c'est que, voilà, j'ai l'impression que c'est, je vais évoluer vers une activité qui accompagnera les êtres humains à être tels qu'ils sont, trouver leur place avec tous mes outils, mais en conscience, et des personnes libres qui vont choisir et qui vont pas subir. Donc, c'est des libérations de dépendances émotionnelles, des dépendances quelles qu'elles soient, pour pouvoir, ok, j'ai besoin d'une béquille, mais c'est pas une béquille à vie, quoi. Je vais faire de tout mon cœur, c'est le cas de le dire, les choix en conscience et sans peur, quoi.
Ouais. Tu fais beaucoup de travail personnel, d'ailleurs, de nettoyage de mémoire, nettoyage des peurs, pour pouvoir avancer sur ta route, justement, alignée et libre dans qui tu es.
Oui, oui. Je travaille beaucoup sur moi depuis 2005. Et du coup, voilà, j'expérimente plein de techniques. Donc, j'ai fait l'assise immobile, j'ai fait les nettoyages de chakras, je me suis formée à l'EFT, Access Bar. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, je travaillais des techniques de guérison énergétique et j'ai rencontré en 2013 une personne formidable qui s'appelle Salima Harawi, Luna Harawi, qui elle a créé une méthode qui s'appelle Éveil par la créativité consciente. Et du coup, c'est une méthode qui m'a énormément apporté et que j'utilise aujourd'hui parce que je suis praticienne du coup de trois niveaux, dont le Donc, le recyclart, le chakra de thérapie, et puis aussi le féminin sacré que je suis en train de valider en mémoire, accompagner les femmes vers leur féminin sacré. Et je suis également formatrice de niveau 1, niveau 2, donc je forme aussi des praticiens, des outils. Enfin, voilà, je donne des certifications d'outils, de création. Donc, c'est une méthode humaniste basée sur l'acceptation de soi. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est l'acceptation de ces zones d'ombre, parce que étant moi-même une première de la classe, on va dire, j'avais ça de dire ah non mais moi en fait tout est parfait, je fais les choses bien, et en fait je voulais pas voir toutes les petites zones d'ombre ou les grosses zones d'ombre ou alors les trucs de mauvaises. Et dans, avec cette méthode là, waouh, c'est regarder ça avec amour, c'est juste incroyable, et ça permet de me réunir aussi, quoi, avec toutes mes zones d'ombre et de lumière. Donc c'est une méthode que je recommande, que j'ai emmenée d'ailleurs en institution aussi, donc dans la clinique où je travaille, et ça fonctionne très très bien. Les patients me disent mais c'est impressionnant, ça équivaut à 10 séances de psy, quoi. C'est très puissant. Donc effectivement le travail de nettoyage et de guérison, voilà, c'est important de se nettoyer soi avant d'accompagner les autres, parce que sinon on peut pas aller loin, en fait.
Ouais, c'est ça.
Pas aller loin, hein, donc et puis on est, comme tu disais, mille un mille autres, ça me plaît, je vais le noter. L'autre est tellement miroir de ce que je suis, forcément si j'avance, ben en fait si je me guéris, je vais guérir les autres, hein.
Ouais.
Donc je peux pas faire l'impasse de la guérison individuelle, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on le voit même au niveau somatique, les gens, quand ils ont une maladie, ils cherchent des gens qui ont eu la même maladie, il y a des associations, ils se regroupent, ils se donnent des tuyaux. Ben, c'est la même chose pour la maladie mentale, c'est la même chose pour tout, en fait, quand on a une histoire, ben, à partager. C'est beau, toutes ces histoires de regroupement, en fait. On voit que l'être humain se regroupe, en fait. Après, c'est intéressant de questionner, quand l'être humain se regroupe, c'est pour quelle fonction? Est-ce que c'est pour l'évolution, ou est-ce que c'est juste pour rester figé dans un statut de victime, dans un statut de, voilà. Alors attention, oui, attention à ça. Et du coup, qui dit statut de victime dit potentiellement manipulable par autre chose. Donc c'est là où intervient vraiment cette vision que j'ai d'une humanité libre, c'est-à-dire que je connais mes faiblesses, donc je ne peux pas être manipulée. Et c'est ça l'intérêt de connaître ses faiblesses. C'est pas de juste les connaître ou les pardonner ou de se fouetter en disant, ah là là, je suis jalouse. Oh là là, mais comment ça se fait? J'ai pas le droit d'être jalouse. Ben non, c'est juste regarder avec amour. Ok, je suis jalouse. Ben voilà, c'est comme ça. Ça vient peut-être du fait que, ben voilà, je viens d'une famille où on était 5 enfants. Donc forcément, ben, ma sœur, mon frère, des fois, ben, j'étais jalouse et c'est ok. Et c'est normal. Et même si la maman dit, bah non, on veut pas que les enfants soient jaloux, parce que quand même, faut s'aimer les uns les autres. Oui, d'accord, mais émotionnellement, c'est juste pas possible.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est reconnaître que, bah oui, je voulais mon papa et ma maman pour moi toute seule, et c'est ok, et c'est normal. Mais voilà, je me regarde avec amour en disant, bah là, je suis jalouse, bah là, je suis envieuse. Et alors, c'est comme ça, je le vis. Mais du coup, si je reconnais, ben, il y a plus personne qui va pouvoir me manipuler sur ça, quoi. Et ça, c'est une clé, mais c'est une clé magique, ouais. Très puissante.
Oui, et puis à partir du moment où je reconnais et que je vois cette ombre, petit à petit, elle se transforme, elle devient plus joyeuse, ça peut être même ludique, on peut même en rire.
C'est ça.
Et ça devient moins grave. Il y a quelqu'un, un ami un jour qui m'a dit, ça me touche d'ailleurs de le redire, parce que lorsqu'il m'avait dit ça, ça m'avait vraiment impacté énormément. J'étais à un moment où j'étais très... Je me sentais très pesante de mes ombres.
Mmh.
Et il m'a dit, mais tu sais, les ombres sont toujours à la hauteur de la lumière. Donc, accueillons nos ombres parce que l'ombre va avec la lumière va avec l'ombre, ça fait partie de notre évolution et de notre incarnation de toute façon. Donc, c'est vrai que il me semble que lorsque on les accueille de cette façon-là, tout d'un coup, la couleur est différente.
Mmh. Oui. Moi, je vois... Bon, à l'époque, on avait le droit de se prendre dans les bras. Mais quand il y avait des ateliers comme ça, où la personne arrivait à déposer sa zone d'ombre et qu'après, derrière, elle était accueillie à bras ouverts, complètement dans un élan d'amour, de « c'est ok oh !» L'émotion qu'il y avait et tout, mais la personne, elle repartait, mais 15 fois plus légère. Parce que rien que le fait d'être de cœur à cœur, ben du coup, c'était transformé, quoi. Et ouais. Ça, c'est un truc... Moi, j'ai toujours aimé la création et la transformation. Voilà, c'est deux choses qui sont chères à mon cœur. C'est que rien n'est figé et que tout peut être transformé. Tout peut se transformer. Donc, j'utilise ça beaucoup aujourd'hui en art thérapie. Parce que voilà, vous arrivez, il y a des images, il y a des mots, il y a des couleurs. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a une étape 1 et il y a une étape 2. Ça se transforme, je déchire, j'enlève ce que je ne veux plus. Bref, en tout cas, l'idée, c'est que dans la matière, j'arrive à projeter ce que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, et j'arrive même à transformer. Et du coup, derrière, il y a des séances d'écriture, des séances de partage avec l'écoute du cœur, comme j'ai été formée donc en psychanalyse appliquée et aussi par ECC. Du coup, ça permet vraiment d'être dans un espace où tous les possibles de l'être qui est reçu peut se dire, peut se voir et peut se transformer.
Ouais, j'ai une histoire à ce propos. J'avais quelqu'un dans mon entourage qui, lorsque mes enfants étaient petits, voulait jamais les amener au jardin, enfin au parc, quoi. Et à chaque fois que on se voyait, je lui demandais, tu veux les amener au parc? Mais t'as pas compris que je veux pas les amener au parc? Il dit, bah, ça c'était hier!
Ah oui, voilà.
Et peut-être qu'aujourd'hui t'as changé d'avis!
Et tu as le droit de changer d'avis.
Et tu as le droit de changer d'avis. Je vais donc m'enquérir de cette possible ouverture. Et voilà, c'était.
C'est vrai que c'est dur. Et ça, c'est intéressant à voir aussi. C'est que je ne change pas d'avis parce que je suis fidèle à moi-même. Mais du coup, c'est figeant parce que du coup, ben, à la limite, j'ai le choix d'aller mieux, mais je veux pas parce que du coup, ça montrerait aux autres que, j'ai changé d'avis et que du coup, voilà. Alors, du coup, les autres prennent une place plutôt d'inquisiteur. Je dis ça. En plus, ça sort comme ça. Je suis péruvienne quand même. C'est drôle. Donc, l'inquisition, hein, c'est cette obligation à être, voilà, si tu n'es pas dans le même système de croyance, ben tu es tué ou tu es brûlé. Forcément, je dois avoir ça dans mon ADN. Donc oui, non, l'autre, en fait, c'est intéressant parce que j'essaye d'accompagner. Et ce que je traverse aussi, c'est que l'autre, c'est pas mon ennemi. Il est juste en train de me renvoyer à mes indécisions et mes doutes, quoi. C'est pas le méchant, en fait. Et donc ça, c'est intéressant. L'autre, il va juste, l'autre, la société, il va juste me renvoyer. Ben alors, qu'est-ce que tu choisis parmi tout ça, parmi tous les facteurs qui t'entourent, parmi toutes les personnes que tu connais, parmi tout ce que tu ressens, voilà, toi ici maintenant, qu'est-ce que tu décides pour toi?
Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ce que tu partageais un peu plus tôt, c'était de sortir d'un positionnement de victime. Avec chaque choix vient quelque chose que je gagne, quelque chose que je perds.
Et tout à fait.
Qu'est-ce que je choisis de gagner? Et non pas, je me focalise sur, mon Dieu, ça, je vais le perdre. C'est pas facile, hein, mais.
Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est, en fait, dans la société aujourd'hui, perdre, bah, en fait, on est manipulé par la perte aussi, hein, je pense. Donc,
Puis on a peur de perdre
Oui.
Parce qu'on sait ce qu'on a, mais si on perd ce qu'on a, on sait pas forcément, on peut imaginer ce qu'on va gagner, mais on sait pas toujours ce qu'on va gagner. Donc c'est vrai que c'est aussi un saut dans l'inconnu, une prophétie de foi dans la vie et dans notre capacité de création.
C'est ça.
Ouais.
C'est la foi dans la vie, la foi que ça va bien se passer.
Ouais.
C'est important, hein, pour continuer, hein, continuer et puis effectivement être oser peut-être voilà perdre, oser perdre pour gagner autrement en fait, hein. Moi j'aime beaucoup la citation de Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, quoi.
Oui, c'est ça.
Et je pense que c'est ça en fait, et en ce moment je suis en train de lire le livre aussi La vertu de l'échec et c'est super intéressant parce que ça finalement voilà, j'ai le droit de rater, j'ai le droit de perdre, j'ai le droit de tout en fait, et puis on verra et quand c'est juste, bah ça s'aligne. Et mais bon, voilà, c'est sortir de ces zones de confort, c'est accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose, laisser de l'espace aussi, parce que si, mais je, c'est pareil par rapport à l'ajustement, c'est-à-dire que si aujourd'hui je me sens plus bien quelque part, ben en fait, soit je décide de rester dans cet endroit-là et de râler, et du coup je pollue l'atmosphère de tout le monde parce que moi je suis pas bien, ou alors je décide de partir et aller ailleurs et apporter de belles énergies dans d'autres groupes. C'est important aussi de se donner l'autorisation de quitter des groupes. C'est pas qu'on les aime plus, que c'est des méchants et tout, c'est juste que à un moment donné, ben voilà, ce groupe-là, il m'a apporté quelque chose, c'était super, on s'est tous apporté des belles choses, c'est très bien. Mais à un moment donné, comme un enfant qui va quitter sa famille, il a besoin d'aller vivre d'autres aventures, il peut pas rester avec son père et sa mère jusqu'à l'âge de 70 ans. C'est pas possible. Et je pense que l'aventure et l'expérience, c'est ce qui nourrit aussi notre cœur et notre âme. C'est ce côté aventurier que on a tendance de perdre parce qu'on le vend au profit de la sécurité.
Ouais, tu as dit quelque chose, une phrase que j'ai trouvée intéressante. Je suis ma liberté. Et j'ai entendu dans « je suis ma liberté » les deux verbes, être et suivre.
C'est ça, tout à fait. J'ai participé à une résidence, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Fil Rouge. Donc c'est un collectif d'artistes du monde entier. Et on crée des résidences d'artistes partout dans le monde, et l'objectif c'est de créer des œuvres collectives. Donc l'idée c'est pas je crée dans mon coin, mais on crée ensemble. Donc ça fait partie aussi de cette expérimentation de ouais, ma place, est-ce qu'on me voit à travers cette œuvre collective, je donne un peu du mien mais pas complètement, etc. Et on a fait une résidence confinée, on a fait deux résidences confinées, une en avril 2020 et l'autre en novembre 2020. Et c'était farouche liberté décadrée, le thème de la deuxième. Et on a beaucoup travaillé sur la liberté, sur voilà le. Et moi j'ai fait un collage que j'ai là qui s'appelle Je suis ma liberté. Et c'est une flèche justement où en fait bah voilà, c'est je la suis mais je suis aussi, quoi. C'est donc en fait en gros ma liberté est mon guide. Ouais, là où je me sens libre, je vais là où je me sens libre. Voilà.
Et c'est quoi être libre alors pour toi?
Pour moi?
Ouais.
Pour moi, être libre, c'est avoir l'occasion de me dire tel que je suis, avoir l'occasion d'être tel que je suis. Et voilà, c'est beaucoup dans l'expression et dans l'être, en fait. Voilà. La liberté, c'est dans sa tête, hein.
Oui, c'est d'abord.
D'abord dans sa tête, hein. Si je suis libre de dire, si je suis libre d'être et si je suis libre de dire, c'est déjà énorme. Justement, notre prise de conscience ce week-end, c'était, ok, ben, quand vous dites des choses, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Parce que souvent, voilà, je dis, bah voilà, tu sais, je peux pas venir parce que voilà, ceci, cela. Non, je ne peux pas venir. Point. Sinon, je donne la force à l'autre de dire, ah ben voilà. Alors du coup, maintenant, c'est le truc qui vient d'intérêt. J'envoie un petit mail, je dis, voilà, à telle date, machin, bidule, point. Mais je me suis rendu compte, combien d'années je suis en train de me justifier de tout, quoi. C'est juste pas possible. Donc si je me justifie pas, si je suis telle que je suis et je me dis telle que je suis, j'affirme, tout simplement. Et puis voilà, puis on verra la suite, quoi. Ouais. Et en fait, c'est impressionnant comment ça fonctionne. Il n'y a pas de justification, c'est comme ça. Et c'est très fort.
Ouais. Il y a autre chose que je trouve intéressant dans la même lignée. C'est un, cesser de se justifier. Et deux, cesser de s'excuser à tout moment. Par exemple, lorsque je suis en retard, j'ai tendance à dire, oh, je suis désolée, vraiment. Et là, je rentre dans la justification. Alors que si je dis, merci d'avoir attendu. Merci d'avoir patienté, j'apprécie. L'énergie est très différente. Mmh. Je reconnais l'acte de la personne en face de moi qui m'a attendue, parce que enfin, moi, je suis très en retard.
Oui, c'est vrai.
Et puis, je cesse de me mettre en position de victime, parce que dès que je me justifie, je reviens dans ce positionnement de victime, de c'est pas de ma faute.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors que bah, si je suis partie en retard, parce que j'ai pas fait gaffe à l'heure, c'est de ma faute. Hein.
C'est ma responsabilité.
Voilà, c'est ma responsabilité ça, de ne pas avoir regardé l'heure, de ne pas avoir fait attention à X, Y, Z. Enfin voilà, je suis responsable de mes actions, de mes pensées, de mon temps et de la façon dont je les utilise. Donc,
voilà. La responsabilité, c'est hyper important, hein, parce que du coup, c'est pareil, c'est des histoires de pouvoir. J'ai donné mon pouvoir à l'autre pour qu'il s'occupe de moi, pour qu'il me prenne en charge. Mais du coup, aujourd'hui, la liberté, c'est de dire, bah non, en fait, tu n'as plus besoin de me prendre en charge, ni de me protéger, je suis capable de le faire. Après, ça ne veut pas dire qu'on va pas s'entraider, mais il n'y a plus de rapport, en fait, hiérarchique. C'est vraiment le cercle, en fait, on est tous ensemble et on va s'entraider. Mais c'est pas, je vais donner mon pouvoir à quelqu'un qui fasse tout et après, je vais le massacrer parce qu'il n'a pas bien fait, etc. C'est trop facile. C'est trop facile et on le voit dans toutes les structures, que ça soit familial, que ça soit voilà professionnel, que ça soit communautaire, voilà, on voit que en fait c'est facile de donner le pouvoir à quelqu'un. Moi je parle en tant que maman, hein, là c'est donne le pouvoir en tant que maman, voilà, c'est maman qui sait, maman qui fait, c'est trop cool. Et quand maman fait pas, allez hop, je t'en rajoute une couche, t'as pas acheté ça, tu m'as fait pas assez à manger, etc. Et du coup nous on est là,
ouais,
on peut pas
vraiment
dire attends,
oh, désolée, t'as assez mangé ce soir, voilà.
Est-ce que t'as assez mangé, t'es sûre,
oui,
ça,
oui,
va,
oui,
ça va,
oui,
jamais, etc. Bref. Du coup, on se dit, attends, petit rappel, tu as 20 ans.
Petite mise au point, s'il vous plaît.
Petite mise au point. Tu as 20 ans, tu peux faire à manger aussi pour tout le monde, c'est sympa. Ah non, mais parce que t'es la mère. Bah oui, mais je suis aussi un être humain et j'aime bien aussi quand on me fait à manger, quoi. Donc, voilà, c'est pas moi qui donne tout et l'autre qui me, non seulement il prend tout, mais en plus il me châtie quand ça va pas, quoi. Ou il me juge quand ça va pas. Mais je me rends compte que c'est moi qui me suis toute seule mise comme une grande dans ce système-là.
C'est ça,
et donc, c'est
ça.
Moi, toute seule comme une grande, qui vient me sortir.
Ouais, c'est ça.
Et c'est difficile parce que je dis, bah, je vais enlever cette étiquette-là, qu'est-ce que je vais faire? Heureusement, je suis grand-mère, donc c'est bien, je vais switcher. Donc, je suis plus mère, je suis grand-mère. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment j'ai fait pour me mettre dans cette galère.
Oui. Ouais.
Et qu'est-ce que je vais faire pour me sortir de là?
Ouais, on en parlait dans une conversation précédente. Ces engrammes culturels de femme à femme qu'on a pris parce que les hommes souvent étaient absents pour toutes sortes de raisons, et de l'importance de créer autre chose qui est dans le partage, dans la délégation, non pas d'être aidé mais que chacun fasse sa part. Et ça nous demande un apprentissage à tous, parce que moi, la première, je trouve normal, je fais du linge, je vais faire les courses, je vais manger, je travaille, quelqu'un a besoin de moi, je suis là. Et puis, tout d'un coup, parfois, je fais une pause, je me dis, ah mais attends, je ne vais peut-être pas obligée de tout faire, en fait.
C'est ça. Mais des fois, j'y pense même pas.
Ouais, parce qu'on est dans le pilotage automatique.
Ouais, c'est ça. Donc, ça demande une transformation de nous tous. Et en tant que femme, je pense qu'on a une responsabilité, tous, hein, on a une responsabilité en tant qu'homme et femme, évidemment. Mais je pense que les femmes ont besoin de se rendre compte que ce système, comme tu le disais tout à l'heure, on le perpétue aussi. Et qu'on a à apprendre à le transformer, de l'intérieur d'abord.
Ouais. Et quand on est accompagné d'autres femmes qui transforment, on transforme plus vite. Hein. C'est ça la force du groupe aussi.
C'est ça.
Attention, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être dans des espaces de confiance où on peut se dire et se transformer ensemble parce qu'on ne sera pas jugé. Et du coup, ça va plus vite quand on est dans des groupes de confiance. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la confiance.
Hein. Ouais.
La confiance, ça nous permet d'avancer. Donc, c'est vrai que tout ce qui est cercle, tout ce qui est se réunir pour échanger, pour accepter les différences d'opinions, pour accepter les expériences de chacun, chacune, c'est tellement important. Et on revient vraiment à des cercles des peuples premiers, en fait, où toutes les décisions se prenaient ensemble. Et c'était assez logique et basique, en fait. Il y avait quelqu'un qui protégeait, il y avait des gens qui discutaient. Aujourd'hui, bien sûr, les sacs sont plus grands, c'est compliqué, mais je pense que chacun peut faire à sa manière des petits cercles, d'échanges, mais vraiment être dans un cercle, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va tout faire, c'est chacun va faire et chacun est responsable.
Oui, chacun responsable, c'est ça.
C'est pas je vais dans le cercle et puis je profite et je m'en vais, parce qu'il y a ça aussi, mais il y a de tout, hein, de toute façon. L'être humain, c'est ça qui est génial, il est capable de tout, du plus lumineux au plus sombre. Après, qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, les ombres et les lumières.
C'est ça, c'est ça.
Aujourd'hui, Lourdes, comment est-ce que tu définirais la couleur, l'énergie de la façon dont tu mets au monde qui tu es ?
La couleur, comment je définis alors ?
Je ne sais pas si ma question a été claire.
Non, c'est pas clair. Je vois une couleur violet, mais je ne vois pas après la
suite.
Non,
mais alors, je vais la poser autrement. Aujourd'hui, comment qui tu es, mais au monde, qui tu es ?
C'est-à-dire, effectivement, alors je vais répondre par rapport à ce que j'entends. Comment je suis en train de me transformer, en fait, je le vois comme ça.
Comment tu contribues à amener encore plus de qui tu es dans ce monde, grâce au parcours que tu as fait.
Alors, je suis en gratitude déjà par tout ce parcours que j'ai fait, dans le sens où j'ai toujours entendu mais c'est pas possible, ça va pas le faire, et que du coup finalement le bilan aujourd'hui, tu vois, finalement je l'ai fait malgré les peurs, malgré les incertitudes et les incompréhensions. Donc finalement mon énergie, c'est oui, tout est possible. Et donc l'énergie que je vais apporter au monde, c'est que oui, tout est possible. Et du coup je peux être je peux témoigner de ça, en fait. Je peux témoigner que tout est possible et que je peux me transformer pour être le plus ajusté à moi-même. Et du coup c'est une histoire aussi de protection de l'être humain, accueillir l'être humain dans sa vulnérabilité, quel que soit son âge, remercier les plus petits, tous les tranches d'âge. J'aime bien tout ce côté aussi transgénérationnel. Je ne sépare pas les petits, les moyens, les aînés. Une de mes objectifs aussi, c'est de travailler avec les personnes âgées, parce que je trouve que c'est des personnes à célébrer, elles ont eu des expériences, elles ont travaillé, elles ont vécu, et que comment faire pour que ces lieux de vie de personnes âgées soient plus gais, soient plus dans la joie, pour les accompagner vers leur transition vers l'ailleurs où ils vont partir. C'est pas une souffrance, c'est une acceptation aussi. Et donc je pense que la vibration ou la couleur, c'est le vert de l'espoir, que finalement j'accepte et je ne résiste pas, j'accepte tous ces cycles que la vie me propose pour me transformer. Je les accepte avec mon cœur, parce que s'il y a bien quelque chose dans l'être humain qui ne peut pas être changé et qu'on a tous en commun, je disais, c'est le cœur qui bat, et que on naît un jour et on meurt un jour. Donc, c'est ça sur lequel on peut être manipulé aussi. Je n'ai pas envie de mourir, je résiste, machin, j'ai des, alors voilà, je vais avoir des biens, comment ça, bref, tout ça. Le matériel, je m'accroche et autres, c'est très bien. Mais disons que si je suis en paix avec ça, avec cette acceptation-là, du coup, ça remet des priorités ailleurs. C'est, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire pendant chaque cycle de vie? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Je vais pas faire la même chose à 50 ans que j'avais fait à 20 ans. Voilà, je peux pas m'habiller comme ma femme. Personnellement, je vais pas m'habiller comme ma fille. Je vais pas faire les mêmes soirées que ma fille qui a 20 ans. Donc non, moi j'ai 52 ans, je vais faire autre chose parce que je le sens pas. Je peux pas être à la place. Je prends la place de quelqu'un d'autre, comme on disait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais de chaque cycle de vie? Qu'est-ce que j'apporte? Je suis témoin de mon cycle. Quelque chose comme ça. Et du coup, c'est ok. Il y a une acceptation et une transformation. Acceptation de ma transformation, un truc comme ça.
Ouais, d'accord, j'entends que ce qui est là pour toi, c'est donc l'acceptation de ta transformation dans la joie et le partage.
C'est ça.
Ouais.
Ouais.
Super, ben, merci. Merci beaucoup.
Ben, merci à toi. Hein. Franchement, super. Je te remercie pour cet espace où je peux me dire aussi, en confiance et en authenticité, parce que il y a pas de préparation du tout pour moi, hein. Enfin c'est vrai, on s'est entendu, enfin voilà, je me suis dite à l'oral et là avec l'image, et c'est vrai que c'est chouette en fait ce qui vient.
Oui, c'est chouette ce qui vient. Ouais. Ouais. Je suis très très, j'ai beaucoup de gratitude pour ce moment. Merci beaucoup.
Ouais. Ouais, merci à toi.
Est-ce que tu accompagnes toujours les personnes qui souhaitent être accompagnées?
Oui, tout à fait, j'ai un atelier qui s'appelle la création vitale. Donc, on peut me retrouver sur ma page Facebook, La Création Vitale. Et je fais des accompagnements individuels, groupes, en présentiel et en ligne aussi.
Super.
Voilà.
Donc, allez regarder.
Voilà, c'est ça. Ne pas hésiter à me contacter ou m'envoyer un petit mail ou m'appeler, en fait. C'est ça.
Super. En tout cas, merci beaucoup, Lourdes. Et puis, au revoir. Au revoir à toutes.
Ouais.
Et à tous. Et puis, à la semaine prochaine.
Ouais, merci. Merci beaucoup, Joël.
Au revoir.
Au revoir.
Si cet épisode vous a inspiré, je serais ravie que vous partagiez vos impressions dans le groupe Facebook Un Instant Une Vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer une autre femme, unique et singulière dans sa puissance et sa vulnérabilité. Belle et douce journée, créatrice de vie.